Vous écoutez France Culture.
Olivier Denray a signé le journal. Il revient à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Today, the majority of South Africa, black and white, recognize that apartheid has no future.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Le hasard ou le destin en ont donc voulu ainsi. Nelson Mandela, le symbole mondial de la lutte contre les discriminations et la figure sans égale de l'histoire contemporaine africaine, s'en est donc allé. Quelques heures à peine avant que ne débute à Paris, en présence de 600 journalistes et 40 chefs d'État ou de gouvernement, le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Il s'achèvera ce samedi après-midi à Paris. Sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, les mots sont soigneusement pesés pour éviter de donner l'impression d'un avatar des nombreux sommets franco-africains qui ont jalonné notre histoire depuis 40 ans. Soigneusement pesés pour laisser penser que le vieux modèle néocolonial de la France-Afrique appartient au passé, pour reprendre les mots de François Hollande. Et pourtant, une autre actualité simultanée semble prêter à une interprétation contraire qui voit la France intervenir militairement en Centrafrique avec mandat de l'ONU. La deuxième intervention militaire française en 11 mois en Afrique après le Mali. Question, comment les médias français regardent-ils l'Afrique? Ont-ils eux-mêmes tourné la page de la France-Afrique ou restent-ils empêtrés dans de vieux clichés? Avec nous ce matin, trois excellents connaisseurs du continent africain. Jean-Baptiste Placa, chroniqueur à Radio France Internationale. Vincent Hugeux, grand reporter à L'Express. Et Thomas Hofnung, grand reporter à Libération. Mais aussi le sociologue des médias Jean-Marie Charon. Et bien sûr l'homme des images et du multimédia sur France Culture, Éric Chavroux. Vincent Bouchard, Mathias Mégy et Francis Pascal sont ce matin dans les coulisses. Et comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus sur franceculture.fr. C'est le 108e numéro du Secret des Sources sur France Culture.
Je veux maintenant vous dire ma volonté de renouveler la relation entre la France et l'Afrique. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique.
François Hollande à Dakar en octobre 2012, martelant son intention de mettre fin, vous l'avez entendu, à la France-Afrique, à ses réseaux obscurs et ses pratiques fort peu démocratiques. Un an plus tard, ce sommet de l'Élysée entend justement ouvrir une nouvelle page plus égalitaire, partenariale entre les pays africains et la France. C'est le message abondamment martelé par le pouvoir politique auprès des médias et en grande partie relayé par les médias. Alors, question toute simple pour démarrer, messieurs Vincent Hugeux, Jean-Baptiste Placa, Thomas Hofnung, les médias sont-ils dans cette affaire les instruments du discours politique? Vincent Hugeux?
J'ose espérer que ce n'est pas le cas. S'agissant de l'anachronisme supposé du pouvoir exécutif français d'aujourd'hui, je pense que ses contempteurs, eux, pêchent par archaïsme. C'est-à-dire qu'ils sont calés sur des catégories assez séduisantes, génératrices de bonne littérature journalistique, mais non pertinent par rapport à l'évolution du rapport de force. Et pour ce qui nous concerne, on a toujours la même ligne de conduite, c'est-à-dire de garder une distanciation critique vis-à-vis de ce que sont les choix dictés par François Hollande et son entourage aujourd'hui, mais aussi vis-à-vis de ceux qui, comme si c'était une martingale inusable, ne peuvent pas lire ce qui se joue en ce moment sur le continent africain, autrement que par le prisme de l'éternel retour de la France-Afrique de papa. Mon postulat là-dessus, et je m'en tiendrai là, c'est que la France-Afrique mute mais ne se rend pas, c'est qu'elle change de nature, je dirais presque de composition génétique, qu'il y aura toujours des personnages dans l'univers militaire, politique, affairiste, qui auront intérêt à doubler ou à parasiter les canaux officiels, mais encore une fois, réduire les choix sécuritaire, économique, politique, symbolique, historique qui sont faits à ce type de rapport de force me paraît extrêmement stérile.
Jean-Baptiste Placard, Radio France Internationale, dans quelle mesure les médias ne relaient-ils pas un discours politique qui annonce la fin de la France-Afrique alors qu'on peut aussi défendre l'idée que ce sommet n'est qu'un énième avatar des fameux sommets France-Afrique?
Je ne pense pas que les médias relaient quoi que ce soit. Les médias constatent et il y a une évolution qui est une réalité. Je pense que si François Hollande en avait eu la possibilité, il aurait décrété purement et simplement la fin des sommets franco-africains qu'on appelle depuis quelques années sommets des chefs d'État de France et d'Afrique. Il ne l'a pas fait. Il a essayé de mettre un contenu à ce sommet-là. En l'occurrence, s'il n'y avait pas eu la situation sécuritaire que nous avons tous vécue au Mali, et s'il n'y avait pas la Centrafrique, je pense que François Hollande aurait ignoré l'Afrique. Il a tenté de l'ignorer, mais l'Afrique est allée à lui avec insistance.
Thomas Hoffnung, Libération.
Oui, parce que je pense que la France-Afrique, en fait, ça recouvre différentes dimensions, différentes réalités. Parce quand on parle de France-Afrique, c'est vrai qu'on a tendance à penser aux réseaux, aux intermédiaires.
Les fameux réseaux Focard autrefois, etc.
Alors c'est vrai qu'en plus, on est instruit par ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy, qui avait proclamé la rupture avec la France-Afrique. Puis on sait que c'est plus compliqué que ça et que les réseaux ont continué d'une autre manière à agir. Là, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, on a l'impression que les intermédiaires un peu opaques, obscurs, sont moins présents.
Mais en fait, la France-Afrique, c'est une réalité, encore une fois, ou c'est surtout un discours de communication bien rodé?
C'est difficile à mesurer. En fait, il faut juger sur pièce. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu des personnages du type Robert Bourgi entrer en action. Mais après, sur les affaires d'otages, on sait bien qu'on a besoin d'intermédiaires. Donc, on voit des noms surgir dans la presse, de nouveaux personnages. Donc, c'est encore un peu trop tôt, peut-être, pour le dire. Moi, ce que je voulais dire sur la France-Afrique, c'est que la France-Afrique, ce n'est pas seulement ses réseaux, c'est aussi un lien très particulier entre la France et l'Afrique. Et je pense que François Hollande se retrouve rattrapé par cette réalité, comme on l'a vu au Mali et en Centrafrique, où la France est souvent se retrouve en première ligne, à mon avis, à son corps défendant.
L'action que nous devons mener avec au soutien de nos amis africains comporte 4 domaines et pas un seul. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, ce qui concerne l'humanitaire, parce que la situation est abominable, abominable. Songez qu'il y a dans certains coins 25% de mortalité infantile, que sur 5 millions d'habitants, il y a en tout et pour tout 7 chirurgiens. Troisièmement, il va falloir travailler sur la transition politique, puisque il n'y a pas d'autorité politique ayant été légalement élue. Et quatrièmement, il va falloir travailler aussi ensuite sur le développement économique.
Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, il y a une semaine sur France Culture, justifiant cette intervention en Centrafrique au nom principalement de l'urgence humanitaire. Reste que le résultat des courses est bien militaire. On va parler des images des militaires dans un instant avec Éric Chavroux, mais si on prend un peu de recul, messieurs, on est quand même frappé par le fait que la France vient d'intervenir militairement en Afrique donc 2 fois en 11 mois, 4 fois en 3 ans si on inclut auparavant la Côte d'Ivoire et la Libye. Et grosso modo, on est dans la moyenne habituelle statistique depuis 40 ou 50 ans, hein, c'est-à-dire une à une intervention et demie par an. Excusez-moi de faire de la statistique, mais c'est la réalité. Pourtant, il y a, et ça prolonge ma question précédente, un bruit médiatique ambiant dominant qui est en gros le thème « c'est pas comme avant, ce coup-ci c'est justifié et légitime ». Écriviez Thomas Hoffnung dans Libération cette semaine, la France y va à son corps défendant. Bon, c'est pas un peu troublant tout ça, non?
Ce qui est vrai, c'est que vous lisez le papier de Thomas dans Libé cette semaine, celui de l'Express. Voyez bien que la ligne d'analyse, c'est le constat que la France, isolée d'ailleurs, et pourquoi? Pour des raisons historiques et symboliques, ne peut pas ne pas y aller. Mais enfin, on n'en bouge quand même pas le clairon et on ne brandit pas le drapeau. On essaye justement de décrypter ce en quoi François Hollande est contraint d'y aller, fût-ce à son corps défendant ou comme gendarme malgré lui.
Jean-Baptiste Placa, des médias plus prudents, c'est un peu ce que dit Vincent Hugeux dans leurs propos.
Oui, encore une fois, les médias ne sont, avec des analyses qui peuvent être discutables parfois, mais ne sont que le reflet des réalités. Les interventions françaises par le passé étaient des interventions, pour la plupart, qui consistaient à sauver la mise à des dictateurs en péril. Aujourd'hui, on ne trouvera pas à Gao, à Tombouctou ou à Kidal ces femmes qui étaient bastonnées, ces gens à qui on coupait les mains, qui vous diront que c'est du néocolonialisme que d'être intervenu là-bas. Et je pense que même les chefs d'État africains, y compris Zuma, y compris des gens comme Kagame,
Le Rwandais qui ne vient pas non plus.
Ou Museveni, ont été soulagés de voir que la France a interrompu, en quelque sorte, mis un coup d'arrêt à la progression des islamistes vers le sud du Mali. Et l'intervention en Centrafrique se fonde sur les mêmes réalités. Par le passé, la France était intervenue en Centrafrique en ayant dans le ventre de Transal, un chef d'État qu'on allait mettre en place à la place d'un autre.
L'opération Barakuda. Voilà.
Donc tout cela, ce sont les faits et la réalité. C'est-à-dire que François Hollande serait bien mal inspiré, il serait mal à l'aise à intervenir je ne sais où pour installer un dictateur qui aurait des problèmes avec son peuple aujourd'hui. Ça, c'est la réalité.
Donc ça veut dire concrètement, Thomas Hoffnung, que les médias majoritairement trouvent la position française légitime?
Oui, parce que c'est vrai que sur le Mali, qui peut reprocher à un pays de... fut-il la France, donc l'ancienne puissance coloniale, d'intervenir pour empêcher des groupes islamistes de s'emparer de grandes villes du centre du Mali et de descendre vers le sud. Après, on a vu justement comment François Hollande avait été acclamé au Mali. Mais après, là, le travail des médias, c'est d'assurer le droit de suite et donc de raconter ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi l'armée française est prise entre deux feux à Kidal. Après, il y a un discours politique qui est de dire mais il n'y a pas du tout de bourbier au Mali pour l'armée française ou pour la France en général. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le calendrier... On ne parle plus de calendrier de retrait. Ça, c'est notre boulot de décrypter et d'assurer ce suivi. Mais encore une fois, là, sur le cas de la Centrafrique, c'est pareil. La France a plutôt le beau rôle. Maintenant, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi c'est la France qui intervient, comme le disait Vincent, seul. Comment on en est arrivé là? Ça renvoie à toute l'histoire des indépendances, de la décolonisation et peut-être de ce ratage historique où on a assuré une forme de coopération avant de se retirer dans de mauvaises conditions. Finalement.
Toujours sur cette facette militaire du traitement médiatique de l'Afrique, Éric Chavroux, vous qui êtes l'homme qui décrypte les images chaque semaine dans Le Secret des Sources, on a fait une petite expérience très simple. Si on tape Centrafrique aujourd'hui sur un moteur de recherche sur Internet, on tombe sur quoi en termes de photos, hein? On tombe sur des photos de soldats français. Donc ça fait évidemment, si on fait un raccourci, on en revient à Afrique égale soldats français. C'est quand même un tout petit peu saisissant. Là, sur l'intervention en Centrafrique, on a vu apparaître un classique cette semaine, Eric, c'est les préparatifs des soldats. Clac, photo.
Un classique militaire, on l'a vu en particulier sur le site du Parisien, c'est un diaporama qui nous montre un escadron sur le départ à Douala, au Cameroun. On y voit les hommes et les femmes qui révisent leur matériel encore et encore, qui peaufinent le barda, revue des machines, et puis il y a aussi les pauses, les dernières pauses peut-être, cigarettes, musicales, à la guitare. Et le photoreporteur Philippe de Poulpiquet, en fait, nous montre à petite échelle ce que les militaires appellent la montée en puissance. C'est un regard à échelle humaine sur ce que certains appellent encore nos gars, les boys à la française, même si il y a bien désormais des femmes qui sont présentes et puis que les troupes sont composées de professionnels.
Il y a un effet de contraste aussi avec une image qui avait un peu dérapé mais qui a été marquante malgré tout pendant le conflit malien. On s'en souvient, on en avait parlé ici même d'ailleurs, cette image du soldat avec ce masque à tête de mort. Donc là, il y a un effet contraste.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs une des clés de cette série de la part de l'armée, c'est de laisser photographier avant le combat. Et on se doute que l'armée française veut définitivement effacer cette image de mort qu'un soldat lui aurait plaqué au moment du Mali. Là, en l'occurrence, le message transmis au pays, c'est les soldats vont bien, et puis grâce à leur matériel, tout se passera bien. Et le message transmis à l'ennemi, c'est voyez un peu ce qu'on vous prépare. On peut se demander si le photographe a vu ses photos filtrées ou pas, parce que c'est le cas quand les photographes sont embarqués, embédés avec les troupes. Et pendant ce temps-là, il faut aussi dire que l'armée elle-même a tiré des salves d'images. Ça passe par sa page Facebook d'opérations militaires. Là, c'est des images beaucoup plus imposantes qui ont déjà recueilli un millier de « j'aime » entre guillemets et beaucoup de commentaires de soutien.
Thomas Hoffnung, Vincent Hugeux, Jean-Baptiste Placa, est-ce que selon vous perdure malgré tout, quand il y a une intervention militaire française sur un sol étranger, un réflexe médiatique un peu nationaliste du style, vous voyez, nos gars y sont, pour reprendre la formule utilisée par Éric Chavroux à l'instant? Vincent Hugeux ?
Oui, je crois que ce syndrome-là persiste, même sous une forme plus sophistiquée, parce qu'il y a une sorte de rapport intime. On peut avoir un cousin, un fils, un frère qui lui-même est engagé dans cette opération ou l'a été hier en Libye, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc c'est indéniable. C'est à nous, là encore, d'instaurer la distanciation avec des interdits lexicaux. Ne pas écrire « nos petits gars », là je suis dans la caricature, mais même « nos soldats ». C'est-à-dire ce qui parfois nous est reproché. Je me souviens d'une conversation assez abrupte avec une porte-parole du Quai d'Orsay de l'époque qui, lors d'un échange vif sur notre couverture du Rwanda et sur la responsabilité historique de la France, en tout cas en termes de cécité politique, disait « mais enfin quand même, vous êtes patriote et français avant d'être journaliste ». Il avait fallu lui dire « madame, non, inversion des facteurs ». Nous sommes des journalistes et il se trouve que nous sommes de nationalité française. Et ce ne serait pas rendre service à l'État et à l'image que vous faites de la République que d'effacer ou d'édulcorer cette réalité. Un petit point simplement, j'en reviens moi à la stratégie de la recherche Internet. Avant cette séquence-là, qu'aurait-on trouvé comme photo réflexe sur la Centrafrique? Par exemple, des photos de la pantalonnade du couronnement de Bokassa Ier. Et pourquoi je dis ça? Parce que Thomas évoquait tout à l'heure le poids de l'histoire. Pour moi, il y a deux spectres qui flottent au-dessus de cette opération. La complaisance navrante de la France giscardienne lors de ce grotesque couronnement, qui est une tache, à mon avis, indélébile sur l'histoire de la relation franco-africaine postcoloniale. Et puis, il y a un autre syndrome qui est celui du Rwanda. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a équivalence des situations. On sent bien que la thématique pré-génocidaire aux États-Unis, génocidaire dans la bouche de Laurent Fabius, elle a pour vocation principale non pas d'instaurer une analogie historique qui ne serait pas pertinente, mais de secouer l'apathie onusienne. Mais en même temps, il est clair que si vous avez, entre maintenant et les trois jours qui viennent, 15 massacres dans un rayon de 100 km autour de Bangui, on dira « mais que font les Français ?»
Ça veut dire que ces fantômes, le Rwanda, évidemment, le génocide au Rwanda, Bokassa, c'est deux exemples évidemment frappants, ces fantômes, ils sont présents aussi, y compris jusqu'au moment où le journaliste il prend sa plume pour écrire. C'est ça que ça veut dire, malgré tout, non, Jean-Baptiste Placa?
Je pense qu'il faut intégrer le fait que le journaliste écrit pour son public. En l'occurrence, le regard que jette l'Express sur la situation en Centrafrique est, disons, la perception que l'Express croit devoir servir à ses lecteurs. Les mêmes situations traitées par la presse de Bangui se placeront d'une autre perspective. Non, il faut admettre le fait que des journalistes français traitant de ces sujets-là se préoccupent de ce qui, dans cette actualité, intéresse le public français.
Et donc avec le poids de ces fantômes aussi, forcément.
Oui, mais c'est encore une fois, c'est-à-dire les fantômes surgissent quand l'actualité elle-même n'est pas suffisamment forte pour les éclipser.
Thomas Hoffnung ?
Je voudrais revenir simplement sur ce que vous disiez sur le reportage photo. Je pense que c'est une information de photographier l'armée dans ses préparatifs. Mais après, justement, il faut voir, et là je rejoins ce que disait Vincent Hugues, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Et pour l'armée française, malgré tout, elle veut peut-être sans doute se donner le beau rôle. Mais il y a une grosse prise de risque aussi, parce que ce n'est pas dit que ça tourne mal. Effectivement, s'il y a des massacres à grande échelle, l'armée française sera en première ligne. Et là, on lui demandera des comptes.
Alors, dans ce traitement médiatique de l'Afrique, il y a cette facette militaire, on vient de l'évoquer, il y a une autre facette qui s'impose progressivement, très perceptible d'ailleurs, là aussi, cette semaine, c'est la facette économique.
Souvent, notamment dans des grands projets d'infrastructure, la France peut gagner quand elle apporte une technicité, bien sûr, et aussi des solutions financières innovantes qui consistent à trouver des financements privés avec des partenariats aussi publics. Quand nous sommes capables d'apporter cet ensemble de services, eh bien nous gagnons.
La ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, lors de ce sommet économique qui, mercredi, a réuni 580 entreprises et a précédé le sommet des chefs d'État. C'est le thème qui monte dans les médias, la croissance africaine. On connaît les chiffres. 6 des 10 pays à plus forte croissance dans le monde sont africains. La classe moyenne africaine compte désormais de l'ordre de 150 millions de personnes. Bref, autant de consommateurs, de clients potentiels. Et c'est une image qui monte, l'Afrique comme un marché. Est-ce qu'il faut y voir, messieurs, une bonne nouvelle, une marque de respect ou une autre forme de condescendance? Jean-Baptiste Placard.
Non, je pense que si la France va chercher en Chine des marchés parce que les Chinois subitement sont devenus solvables, elle peut prendre en compte le fait que l'Afrique, si elle est bien dirigée, parce que c'est le fond du problème, si elle est bien dirigée avec toutes ses ressources humaines et naturelles, peut devenir aussi un marché à plus courte portée de la France. Je pense que ça, ce sont des éléments qu'il faut intégrer dans la relation aux pays africains. Et je pense qu'une des choses que les Africains reprochent à la France, c'est de ne jamais avouer que ce qu'elle fait sur le continent, elle le fait au regard de ses intérêts. C'est-à-dire on a toujours le sentiment que la France vient aider ce continent-là, ces pays, et jamais on ne dit voilà, mais en fait...
Elle est hypocrite.
Il faut le dire, il n'y a aucune honte à avouer qu'on a intérêt à ce qu'un pays, qui potentiellement peut devenir un marché intéressant, est un partenaire avec lequel on veut avoir des relations saines. Je crois même que ça aiderait, parce que le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est mal gouvernée dans un certain nombre de cas, et cette « mal gouvernance », entre guillemets, induit la pauvreté. Mais si les pays étaient bien gouvernés, regardez un pays comme l'ex-Zaïre, la RDC, avec tout ce qu'ils ont comme richesse, s'ils avaient un leadership conséquent, je veux dire que c'est...
Il suffit de repartir les richesses du sous-sol.
Voilà, c'est mieux que la Suisse.
Sauf que dans ce discours sur l'économie, ce discours médiatique sur l'économie, est-ce qu'on ne perd pas de vue précisément cette question de la démocratie? C'est-à-dire, c'est la formule d'Obama, je crois qu'il disait il y a plein d'iPads à vendre en Afrique. Mais oui, mais enfin, si en même temps on maintient les dictateurs,
on n'en est pas là, hélas. Je veux dire, aujourd'hui, je ne pense pas que l'enjeu du marché centrafricain ou du marché malien soit moteur dans les choix qui sont faits. Il existe des impératifs de nature sécuritaire et ô combien transnationaux qui imposent une intervention. Et je pense que cette lecture hyper économiste est extrêmement réductrice aussi. Je ne dis pas que lorsqu'on intervient au Mali, on n'a pas un œil sur l'uranium du pays voisin, le Niger. Évidemment, prétendre le contraire serait faire preuve d'une candeur coupable. Mais regardez, la séquence même du sommet, c'est-à-dire qu'on commence par un sommet économique où tout le monde entonne le refrain de la croissance africaine. Et on ne peut pas parler de la croissance de l'Afrique, il faudrait parler de la croissance de certaines Afriques et de la régression des autres. Mais pour le reste, comment voulez-vous imaginer la construction d'un partenariat économique équilibré, harmonieux, juste, sincère, honnête, etc., quand vous êtes au fond du chaos et du danger intercommunautaire? C'est là où il y a quelque chose d'assez frappant, me semble-t-il. Et alors on va me dire, oui, on veut placer du matériel militaire. Allez discuter avec le patron d'une grande société française, il vous expliquait que ce n'est pas parce qu'on était en Côte d'Ivoire et au Mali qu'on va fourguer plus facilement nos hélicoptères. Ils sont 50% plus chers que ceux des Chinois, et même topo pour les dispositifs de surveillance frontaliers.
Thomas Hoffnung, l'illusion du discours économique, enfin, c'est un peu ce que disait Vincent Vigeux.
C'est vrai que ce qui est très paradoxal, c'est que... On parle de parts de marché à reconquérir, parce que la France a beaucoup perdu. Hein. En 20 ans, ces parts de marché ont été divisées par 3.
Oui, c'est ça, entre 2 et 3.
On parle de reconquête et en même temps, on se retrouve avec deux interventions la même année, deux interventions militaires dans des pays où, me semble-t-il, ce que disait Vincent à l'instant, les intérêts économiques français ne sont pas majeurs. Il y a beaucoup plus d'intérêts au Nigeria, en Angola et maintenant sur la façade de l'océan Indien que dans l'ancien précaré français. Donc là, on est dans un paradoxe, mais moi, je trouve que ça change aussi un peu l'image de l'Afrique et ça, c'est pas négatif en soi. C'est vrai qu'on parle beaucoup et là, malheureusement, on est rattrapé par l'actualité en Centrafrique. On parle de massacres, mais voilà, l'Afrique, c'est pas une terre de massacres. Il y a aussi des pays qui vont bien, vous l'avez dit tout à l'heure, des pays qui ont une forte croissance. Alors, il faut pas, je pense, se limiter uniquement à conquête de parts de marché. Parler que de parts de marché, tout à coup, de repartir complètement dans l'autre sens. Et nous, Français, enfin, l'État français a sans doute un autre discours à porter sur le respect des droits de l'homme et les médias sont là aussi peut-être pour parfois servir d'aiguillon à ce niveau-là.
Alors précisément sur cette question des images, là où, des caricatures aussi faites souvent de l'Afrique, je me tourne évidemment vers Jean-Marie Charron, nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes sociologue des médias, membre de notre cercle d'observateurs des pratiques journalistiques dans le secret des sources. Si on met à part effectivement cette émergence de la thématique croissance avec ce qu'elle a d'illusion, Vincent Huger le disait à l'instant, on a quand même la sensation que le bruit médiatique dominant sur l'Afrique reste marqué par les thématiques négatives.
Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, y compris comment les choses ont évolué depuis une dizaine d'années. On avait organisé, enfin les entretiens de l'information, qui sont une structure de réflexion un peu sur l'information, avait organisé il y a juste 10 ans. Une journée ici sur quelle image de l'Afrique dans les médias. Alors il y avait une première interrogation, est-ce que l'Afrique est présente ? Oui, elle est présente, pas massivement malgré tout, et surtout très inégalement. C'est-à-dire qu'on voyait que certains pays n'étaient pas présents et qu'en gros, il y a une surexposition de la zone francophone. Mais ce qui était surtout frappant, c'était de voir qu'il y avait un prisme dans les thématiques traitées, un prisme qui était toujours autour des thèmes de crise, de misère, de catastrophe, enfin, etc. Et quand on regardait le rubriquage, on voyait qu'il y avait une énorme partie concernant le politique, mais par contre que des secteurs comme la culture, les sciences et techniques, même l'économie, étaient extrêmement peu présents, voire pas du tout présents.
Ça reste vrai aujourd'hui ?
Alors voilà, est-ce que ça reste vrai aujourd'hui ? Moi, je me référerais, j'en ai un peu l'impression, mais comme mon impression ne vaut pas grand-chose, je me référerais plutôt à un papier qui a été publié par Jeune Afrique l'année dernière, qui repartait de cette thématique-là. Il était intitulé « Splendeur et misère des journalistes » et qui, en gros, faisait un peu le même constat en disant que finalement, toute cette dimension pays émergents, success stories possibles, thématiques émergentes en termes de contenu, enfin en termes d'activité, étaient peu présentes. Ce que la responsable Afrique de l'AFP m'appelait, on en parlait récemment, l'Afrique heureuse. Pourtant, elle me disait qu'il y avait une demande dans ce domaine. Alors, l'autre aspect qui est intéressant, moi, c'était José Kagamo du Centre de recherche africaine qui nous l'avait signalé. C'est la tendance à généraliser, à monter en généralité.
Tout le monde dans le même sac. Voilà. Hein. Les 54 pays africains, c'est ça ? Et 1 milliard d'habitants, tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, l'Afrique.
Voilà, chacun part finalement d'une crise ou d'une expérience parfois qui lui est personnelle. Et puis effectivement, ça devient l'Afrique. Alors parfois, ça donne lieu à des bouffonneries. Hein. Par exemple, je crois que c'est Slate Afrique qui signalait l'exemple d'un papier, je crois, paru dans Times, qui parlait de l'alcoolisme en Afrique. Et ça partait de quoi ? D'un sujet, je crois sur le Kenya, où il y avait eu un problème d'alcoolisme. Et en fait, quand on regardait au contraire des statistiques sur l'Afrique, on voyait que c'était plutôt un des continents où le problème se posait le moins. Mais il y avait eu, de la part de la rédaction, là, une espèce de décollage. Alors cette question-là, finalement, elle n'est pas franco-française. On la retrouve dans les médias anglo-saxons. Et là, toujours dans Slate Afrique cette semaine, je crois, il y a un papier qui, justement, montre, qui part d'une analyse concernant les médias anglo-saxons, en fait, le Guardian et le New York Times, et qui montre, qui fait une comparaison Afrique-Asie, et qui nous montre que quand on entre sur... quelles sont les thématiques d'entrée lorsqu'on va parler de l'Afrique, eh ben, c'est Afrique. Et puis loin derrière viennent Afrique
certains
du
pays,
Sud,
ouais.
Voilà, Afrique du Sud, Égypte, etc.
Et sur l'Asie, c'est l'inverse, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Si on prend l'Asie, on parle 4 fois plus sur l'entrée Chine. Ensuite, on va avoir l'entrée Inde, on va avoir l'entrée Japon, et puis loin derrière vient l'Asie. Donc on voit bien ce phénomène, je dirais, de monter en généralité, avec un gros risque, me semble-t-il, en termes journalistiques, c'est que plus on passe en généralité, et plus on va vers les stéréotypes.
L'Afrique vue comme un paquet informe, Vincent Huger, Jean-Baptiste Placa, Thomas Hoffnung, Vincent Huger.
Traiter l'Afrique comme une entité homogène est pour moi un non-sens absolu.
Mais
vous remarquerez d'ailleurs, dans le prolongement de ce que Jean-Marie Charron vient de dire, qu'on ne vous demandera jamais si vous êtes américano-pessimiste ou asia-optimiste. En revanche, on vous met dans le coin du studio avec un 765 sur la tempe en vous sommant de vous classer dans la catégorie des afro-optimistes ou des afro-pessimistes. Catégorie bien plus morale que factuelle et qui fait bon marché d'une troisième catégorie, qui n'est pas nécessairement la réinvention de l'eau tiède, c'est notre devoir d'afro-réalisme, c'est-à-dire dire et raconter les Afriques qui marchent, s'en sortent, essayent, vainquent les grandes pandémies et tout ce que vous voulez, ou les malédictions économiques et politiques. Et puis, il est de notre devoir de raconter aussi ces coins d'Afrique qui reproduisent des schémas assez consternants, notamment en termes de pratiques démocratiques et droits de l'homme.
Jean-Baptiste Placard,
oui,
Thomas Hoffman.
Alors, la terminologie est unique, mais les réalités sont multiples. En même temps, il y a des catégories, j'allais dire, d'Afrique et qu'on peut scinder en 4, 5 tout au plus. C'est une réalité et il faut dire, on parlait de la presse française en l'occurrence, la presse française et les Français par conséquent regardent l'Afrique à travers les anciennes colonies françaises d'abord.
L'Afrique occidentale essentiellement.
Je ne connais pas beaucoup de journalistes de la presse française qui prennent, j'allais dire, l'avion, des frais de mission pour aller en reportage au Botswana, alors qu'il n'y a aucune guerre, il n'y a aucun problème là-bas. Et pourtant, le Botswana mérite d'être regardé. Les journalistes de francophones qui vont au Ghana, ce sont des pays qui ont leur réalité, qui ont connu le fond des difficultés que les autres peuvent connaître, sauf que, à la différence des pays francophones, ces pays-là n'étaient pas protégés, entre guillemets, par l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire que quand la Centrafrique avait des soucis de fin de mois, il y avait le trésor français pour payer. Et à travers une monnaie, ces pays ont été portés, un peu comme quelqu'un qui devient adulte et dont les parents continuent de gérer les revenus, ou en tout cas une partie des revenus. Et les Ghanéens n'ont pas connu ça. Quand ils ont commis des erreurs, ils en ont assumé les conséquences jusqu'à la lie.
Thomas Hoffnung, Libération.
Oui, je pense que les médias, comme les politiques d'ailleurs, sont peut-être victimes d'une vision un peu post-coloniale. Après tout, puisqu'on parlait de généralisation, il ne faut pas oublier quand même Nicolas Sarkozy qui parle de l'homme africain. Moi, je me suis toujours demandé
n'est pas entré dans l'histoire.
S'il irait à Moscou parler de l'homme russe ou aux États-Unis de l'homme américain. Enfin, c'était une généralisation incroyable.
De l'âme
donc,
russe,
il y a cette vision globalisante qu'on ne trouve que vis-à-vis de l'Afrique. Et alors, elle est à la fois globalisante et réductrice. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que vu de France, l'Afrique, c'est surtout l'Afrique francophone. Et on a du mal, c'est vrai, il faut le dire, dans les médias, à réserver de la place à d'autres
anglophones. Mais on pourrait parler de l'Afrique lusophone aussi, Mozambique, Angola, etc. Il y a plein de choses intéressantes.
Et peut-être que là, on risque de passer à côté de ce qui se passe dans certains pays qui sont très dynamiques. Et ça peut donner une autre image de l'Afrique à cet égard. Ce discours sur la croissance africaine est, encore une fois, à mon avis, un aspect positif à ce niveau-là.
Les médias ont-ils tourné la page de la France-Afrique ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec Vincent Hugeux de L'Express, Jean-Baptiste Placa de RFI et Thomas Hoffnung de Libération. Comme toujours, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr. L'ivoirien Tikenja Fakoli et son incontournable France-Afrique.
Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, ils puent nos richesses. Et c'est disait surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature,
Tikanja Fakoli, le blagué tué de la France en Afrique. Comme toujours, le traitement journalistique d'un sujet est tributaire, on le sait, des sources du journaliste. Alors, je voudrais qu'on s'arrête aussi sur cette question des sources. Prenons un exemple, par exemple, prenons la Centrafrique aujourd'hui. Quelles sont les sources du journaliste sur le sujet ? Quelle crédibilité les uns les autres vous pouvez accorder aux sources officielles, par exemple politiques, militaires, diplomatiques, etc. Est-ce qu'il y a des fameux off sur le sujet? Comment ça se passe? Vincent Hugeux.
Message à l'intention de nos actionnaires respectifs, il n'y aura jamais de meilleure source que le reportage. Et si je prends le risque de m'exprimer ou de produire des analyses aujourd'hui sur les enjeux de l'intervention en République centrafricaine, c'est parce que j'y ai passé un peu de temps, et notamment dans la zone de Bossangoa, dans une période où je n'ai vu ni force panafricaine, ni même ONG, dans les villages où nous ramassions des blessés par balles en train de crever au fond de leur case. Donc la seule légitimité que l'on peut revendiquer, c'est celle du terrain. Bien. Cela posé, oui, il y a toute la gamme. Et notamment cette sorte d'exercice un peu compassé qu'on appelle le off, de l'expression britannique off the record, où on est supposé recueillir des informations de nature confidentielle dont on n'identifiera pas les sources. Bon, le problème, c'est que bon, on va être dans une typologie militaire, restons-y. Donc il y a du off et puis il y a du sous-off. C'est-à-dire qu'il y a un off frelaté et fictif. Et c'est quand même le genre de beauté le plus pratiqué, que ce soit à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, où on vous convie à un décryptage derrière le rideau des apparences. Et au fond, il n'y a rien de bien confidentiel, ni rien particulier. Mais comprenez cela assez aisément, puisque si on est 42 dans une pièce, qu'advient-il de la confidentialité? La confidence, on peut, dans le meilleur des cas, l'arracher à l'un des interlocuteurs en le coinçant après le off, pour faire un off dans le off.
Les fameux conseillers Afrique, par exemple, là, Hélène Le Gall, auprès de François Hollande, elle était l'invitée de France Culture cette semaine, c'est quelqu'un, par exemple, qui parle en off aux journalistes et qui dit des choses intéressantes. Je ne sais pas, Thomas Hoffnung.
Oui, ben non, pour faire suite à ce que disait Vincent Hugeux à l'instant, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que le off n'existe plus vraiment, en fait. Je pense que comme il a été tellement... malmené, d'une certaine manière, il n'y a plus véritablement, on ne sait plus ce qui est off, on, il y a des pseudo-off, mais oui, on peut accéder à Hélène Le Gall et son adjoint Thomas Mélogno, mais très souvent, c'est encore une fois, il y a des off avec énormément de journalistes, donc finalement, on dit pas grand-chose dans ces off, et je pense que nous, après, il y a ce que disait Vincent, il y a le reportage, et puis après, avec... Le off, il faut le recouper d'une certaine manière. Il faut recouper les sources, y compris en off. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut multiplier les sources à la Défense, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, quand on est à Paris. Et voilà.
Alors, il y a le terrain, on a compris, qui est évidemment la source principale parce qu'immédiate et essentielle pour le journaliste. Il y a ces sources officielles, diplomatiques, militaires, etc. Il y a d'autres types de sources. Par exemple, il y a les ONG. Dans quelle mesure le discours des ONG influe sur la vision médiatique de l'Afrique? Et puis, autre sous-catégorie, si j'ose dire, les experts auxquels on a souvent recours, notamment sur l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres, les ONG, les experts et leur influence?
Alors, Jean-Baptiste Placard, RFI. Les ONG, certaines font du très bon travail sur le terrain. Malheureusement, parce qu'elles ont besoin d'être financées et de sensibiliser leurs donateurs, parfois aussi ont tendance à, j'allais dire, entraîner les journalistes à insister sur des aspects qui... leur permettent justement de sensibiliser ces donateurs. Bon, les experts. Il n'y a pas longtemps...
Il y a experts et experts. Déjà, on peut dire ça, je pense.
C'est-à-dire, alors, l'Afrique, je parle en tant qu'Africain, hein, l'Afrique, de notre point de vue, est le continent sur lequel, en tout cas en France, on trouve le plus grand nombre de spécialistes au kilomètre carré. Et j'entendais il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Kofi Amniam, qui disait que quand dans la nuit, par mégarde, vous donnez un coup de pied dans une poubelle, il en sort des dizaines de spécialistes de l'Afrique, notamment Rui Solferino. Je pense que c'était féroce.
Il ne doit pas y avoir qu'à Solferino, cela.
Voilà, c'était féroce, mais je pense qu'il y a quand même, effectivement, Vincent Hugeux, Thomas Hoffnung parlaient de terrain. Ils y sont, moi j'y suis un peu moins maintenant, mais j'y ai passé des années et des années aussi. Et il y a des gens qui sont spécialistes de l'Afrique parce qu'ils sont allés dans deux pays.
Il y a 15 ans de ça.
Voilà, c'est ça. Et c'est terrible.
Thomas Hoffnung et Vincent Hugeux qui donnent ligne de la tête et qui opinent du chef.
Non, sur les ONG, je pense, et pour les experts, c'est la même chose. D'ailleurs, il faut faire le tri. Et c'est là aussi notre travail de journaliste. Les experts ne sont pas mauvais en soi. Enfin, ils ne sont pas rejetés en tant que tels, mais il faut s'adresser, trouver les bons. Et sur les ONG, j'aurais par exemple cité l'exemple de Médecins Sans Frontières qui, il y a un bon moment déjà, attirait l'attention sur ce qui était en train de se passer en Centrafrique. Je me souviens d'un communiqué qui s'appelait « Une catastrophe silencieuse ». Donc voilà, je ne fais pas de la pub pour MSF, mais ce que je veux dire, c'est que les ONG, elles ont leur discours, elles font de la communication aussi, elles ont besoin elles vivent de dons, mais elles ont aussi bien sûr leur utilité et en l'occurrence, elles peuvent être comme des lanceurs d'alerte, et je crois que c'était le cas là, pour MSF en Centrafrique.
Et elles ont considérablement affiné leur expertise d'analyse politique. Je parle des grandes ONG qui peuvent produire un discours qui nous est d'ailleurs extrêmement précieux, au-delà de la mobilisation caritative. Pour le reste, le nerf de la guerre est aussi celui de l'indépendance journalistique, c'est-à-dire que j'en reviens à mon obsession du reportage. Si vous êtes dans la pogne d'une ONG, si respectable soit-elle, de l'armée française ou autre, ou d'un ministre en goguette pour aller sur le terrain, vous perdez évidemment beaucoup de votre capacité d'initiative et de votre lucidité. Et pour ce qui est des experts, il y a d'excellents experts africains. Je pense évidemment à quelqu'un comme Achille Mbembe, qui enseigne notamment dans l'université sud-africaine et également outre-Atlantique. Et je pense à des Français comme Jean-François Bayard, même s'il travaille beaucoup sur le monde turco-iranien aujourd'hui, mais qui a la profondeur de champ historique post-coloniale. Je pense à un Richard Banegas aujourd'hui. Ce sont des points de repère, des balises extrêmement précieuses quand justement on veut dépasser l'écume des choses et essayer d'aller dans l'approfondissement.
Ce que souligne Vincent Hugeux, Jean-Marie Charon, c'est la nécessité du terrain. Il le fait évidemment avec raison. Ça pose la question de cette persistance de vrais spécialistes dans la presse, et notamment sur le terrain africain. Il se trouve que là, on en a autour de la table, mais il n'y en a pas tant que ça sur la place de Paris.
Non, je crois qu'effectivement, on est souvent revenu sur ce sujet-là ici. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période très particulière. On est dans une période où les modèles économiques des médias sont très ébranlés. Et là, je veux dire, les choses vont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, le numérique, par exemple, et les nouvelles technologies permettent beaucoup plus d'accès aux acteurs, et notamment aux acteurs locaux, économiques, culturels, politiques. Et il est frappant de regarder sur les réseaux sociaux, de regarder sur les blogs, voire des sites qui apparaissent et qui sont effectivement des acteurs en matière d'information et qui peuvent être des ressources. Mais moi, je suis frappé, par exemple, sur ce qui se passe en télévision. Par exemple, on a vu que les grands réseaux internationaux sont toujours présents, mais il y a un retour, par exemple, d'une notion de télévision plus locale, hein, de région, etc. Je crois que Jeune Afrique, dans une étude récente, signalait qu'il y avait 1600 télévisions aujourd'hui qui émettaient sur le continent. Donc on voit qu'il y a une diffusion beaucoup plus importante. Mais ce qui est aussi, évidemment, le revers, c'est l'autre aspect, c'est que la crise du modèle économique, effectivement, comme vous le disiez, c'est moins de spécialistes. Et là encore, Jeune Afrique critiquait un peu ce qu'ils appelaient le grand reporter mondialisé, c'est-à-dire le fait qu'on a effectivement...
Le Tintin qui va partout sans être spécialiste de quoi que ce soit.
Parce que c'est dans beaucoup de rédactions aujourd'hui, ce sont les seules possibilités, les seules ressources. C'est-à-dire que quand une crise est vraiment très importante, eh bien, on y envoie quelqu'un de très spécialiste. Et puis, il y a aussi ce qui pèse, c'est-à-dire le fait que, par exemple, RFI et plusieurs journalistes qui soient morts en Afrique dans les dernières décennies, ça crée aussi un contexte dans lequel on va hésiter davantage à envoyer des gens, sachant qu'aussi, c'est beaucoup plus coûteux. Vous évoquiez par exemple les déplacements dans certaines régions. Toutes les agences, je pense à l'AFP, insistent beaucoup sur les difficultés qu'ils ont aujourd'hui à faire circuler des journalistes sur place parce que ça revient extrêmement cher.
Un petit mot, je voudrais qu'on conclue là-dessus. Vous évoquiez à l'instant, Jean-Marie Charon, l'émergence des médias africains aussi, d'une forme de discours qui soit un discours alternatif au discours produit par le monde occidental, par les médias occidentaux. Ce qui est intéressant à relever, Eric Chavroux, c'est que Internet est aussi une forme de point de bascule par rapport à ça. C'est-à-dire qu'Internet favorise l'émergence d'un discours discours alternatif africain parce que par l'accès aux réseaux sociaux. Si on prend la Centrafrique par exemple, on voit émerger via les réseaux sociaux un discours qui nous arrive de Centrafrique.
Avec des chiffres particulièrement frappants, puisque concernant la Centrafrique, l'an dernier, d'après la Banque mondiale, seuls 3% de la population accédait à Internet, mais 98% de ces internautes utilisaient Facebook. Donc c'est une voie de la jeunesse puisque c'est en masse des 18-34 ans, mais il y a aussi des personnes âgées qui sont en nette hausse. Et d'ailleurs, Facebook parie beaucoup sur l'Afrique pour compenser sa perte de vitesse en Amérique du Nord ou en Europe. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, alors évidemment, là en l'occurrence, il y a les points de vue de chacun, mais il y a aussi des mises en garde par rapport aux médias. Et je trouvais intéressant que, sur la page Facebook, on y revient d'une agence de presse qui s'appelle la Nouvelle Centrafrique. Sur cette page-là, il y a des personnes qui, avec leur propre compte, accusent cette agence de presse d'être l'équivalent en ligne de la radio rwandaise des Mille Collines avant le génocide.
Internet comme vecteur d'un discours médiatique réellement africain qui fasse contrepoids, Jean-Baptiste Placard ?
Oui, alors il y a des médias hein, dans les pays. Il ne faut pas non plus penser que c'est le désert absolu. Il y a des pays où il y a une presse et une presse audiovisuelle.
Y compris parfois une presse satirique écrite
de bonne qualité,
fameuse.
Qui est la principale source d'information des gens du pays. Et puis il y a ceux où il n'y a rien de très crédible et qui se remettent à une radio comme RFI pour savoir ce qui se passe chez eux, et ainsi de suite.
Et Internet
Internet n'est que le reflet de ces réalités-là. Internet en soi n'est pas la source d'information. Internet relaie ces organes-là qui peuvent exister. Et je souligne pour terminer que quand il y a un événement dans un pays, si je n'ai pas sur le câble la télévision nationale, j'essaie d'aller trouver justement une télévision du pays sur Internet. Au Kenya, par exemple, le niveau des télévisions et la nationale et des télévisions privées, c'est le niveau des grandes chaînes américaines. Il y a rien à redire. Voilà, donc c'est encore une fois une terminologie unique, l'Afrique, mais des réalités multiples.
Allez, comme toujours dans Le Secret des Sources, le dernier mot revient au regard ironique, aigre-doux de Yacine Bouzard. Yacine qui s'amuse cette semaine avec les vieux clichés sur l'Afrique qui ont la vie dure.
Bonjour, tu me donnes un coup de main s'il te plaît ?
Eh bien, avec plaisir, je t'écoute.
Je dois faire un papier sur l'Afrique, tu peux me donner des idées ?
Bon alors, tu commences par un peu d'ambiance. Du genre tam-tam.
Oui.
Ensuite, il te faut du son. Donc, si possible, des personnes en transe.
Ok.
Il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Celles qui volent là, on le tue.
Alors, oui, quelque chose d'important. Il faut toujours entendre dans un bon papier sur l'Afrique des Français lorsque tu parles d'Afrique.
Aucun intérêt, si on ne peut pas se déplacer, c'est dommage. Nous, on rentre. Vous dites au revoir ?
Et pour terminer, tu trouves un Africain qui aime la France.
La France est un pays puissant dans ce monde.
Et voilà, tu le tiens, ton papier sur l'Afrique.
Le clin d'œil de Yacine Bouzard. Merci à tous. Thomas Hofnung, Jean-Baptiste Placat, Vincent Hugeux, Éric Chavroux, Jean-Marie Charon étaient cette semaine dans Le Secret des Sources. Plateau très masculin ce matin dans Le Secret. C'est un autre garçon, Ludovic Piétenu, qui vous fera vivre dans les journaux de ce samedi les derniers développements de ce sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Les médias français ont-ils tourné la page de la France-Afrique ? Le Secret des Sources à commenter, à réécouter, à télécharger. C'est à vous de jouer sur franceculture.fr. Dans quelques minutes, après le journal d'Olivier Denray, réplique sur France Culture avec Alain Finkielkraut qui reçoit Christian Sommer et Adrien France-Lanore au programme du bon usage de Heidegger. Prenez soin de vous.
Le journaliste écrit pour son public. En l'occurrence, le regard que jette l'Express sur la situation en Centrafrique est la perception que l'Express croit devoir servir à ses lecteurs.
Message à l'intention de nos actionnaires respectifs, il n'y aura jamais de meilleure source que le reportage.
On ne sait plus ce qui est off, on, il y a des pseudo-off, Il y a des offs avec énormément de journalistes, donc finalement, on ne dit pas grand-chose dans ces offs. Et je pense que le off, il faut le recouper d'une certaine manière. Il faut recouper les sources à la Défense, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, quand on est à Paris, et voilà.